Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30 et tout de suite, votre journal présenté par Antoine Ramey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité, hier avait lieu la marche de Saint-Joseph, une balade en non-mixité choisie puisqu'il n'y avait que des hommes, quand un Coles est allé à leur rencontre. De nouveaux bombardements ont lieu hier dans la bande de Gaza, plus d'informations dans notre page internationale. Et en fin de journal, suite de notre page spéciale consacrée à l'extrême droite, aujourd'hui nous nous intéressons à la désinformation utilisée comme une arme par ces partis. Hier était le jour dédié à Saint-Joseph, époux de Marie dans la foi chrétienne. Pour célébrer cette journée, des marches sont organisées autour de différentes abbayes au sein du pays, des marches réservées uniquement aux hommes. Quant à Coles, s'est rendu dans celle d'Aubel.
Ils sont plus de 100 à marcher au rythme des cloches de l'église Saint-Hubert d'Aubel. Ces hommes ont démarré tôt le matin de l'abbaye de Val-Dieu pour célébrer Saint-Joseph sous un soleil radieux.
C'est un saint qui m'est très proche. J'ai des choses personnelles aussi à demander, mais pas beaucoup à donner, mais... J'ai beaucoup à demander et à m'offrir à lui en espérant qu'il remplit d'abord mon cœur et qu'il me fait un peu plus semblable à lui-même, comme père de famille, dans mon travail, dans mon mariage et pour mes enfants aussi.
Cette journée dédiée à Saint-Joseph est totalement réservée aux hommes. Jacques Gallois, membre de l'organisation.
Cette marche s'adresse aux hommes parce que c'est né comme cela en fait. C'est quelques hommes, des amis en fait, qui ont démarré la marche en 2010, 2011, et ils ont remarché à ces intentions de prière. Et la marche a grandi comme ça, entre hommes. Et on se dit que ben, c'est bien qu'il y ait comme ça une marche entre hommes, parce qu'il faut savoir que nos épouses avaient, elles, auparavant, lancé la marche des mères. Bon, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire une marche pour les hommes.
Et pour participer à cette marche, aucun centime n'a été demandé.
Ben, elle est gratuite parce que nous sommes des bénévoles, alors on a eu un petit peu des frais. On fait un petit don à l'église qui nous accueille, on loue une salle pour le repas. On a des frais de promotion, etc. Voilà, donc il y a une collecte qui est organisée. Mais en fait, le surplus de la collecte, on le dédie surtout aux jeunes.
Dans le reste de l'actualité locale à Liège, les travailleurs du groupe de sidérurgie Liberty Steel demandent la mise en faillite de leur entreprise. Cela fait 3 mois que les ouvriers ne sont plus payés et la mise en faillite est donc la meilleure solution selon les délégués syndicaux. La justice a convoqué mardi prochain la direction locale de Liberty pour les interroger sur la santé financière de la succursale. L'organisation de jeunesse Latitude Jeune organisait hier sa 4e édition de Ludocité. L'événement réunit les jeunes et les moins jeunes autour de plus de 2000 jeux de société, en plus d'animation. Thomas Radou s'est rendu sur place.
On fait le cap là, on fait le cap là, on fait le cap là en premier, allez, vite.
Au siège de Latitude Jeune, il y a des jeux à tous les étages. La branche jeunesse de Solidaris a ouvert ses portes au plus grand monde hier après-midi. D'autres associations ont également proposé de nombreuses animations. Participer à une pièce de théâtre interactive, créer son propre jeu de société ou même imaginer son personnage de jeu de rôle, tout le monde était le bienvenu. Damien Cozzo, président de l'association partenaire Objectif Jeu.
Bah nous, on était en train de présenter justement ce qu'on fait de façon hebdomadaire, de semaine en semaine. Donc on a présenté un petit peu un atelier de peinture, une présentation de jeux de figurines, quelques jeux de plateau, pour donner un peu aux gens du type de choses qu'ils peuvent voir et faire dans notre association. Dans notre club, en fait, tout simplement.
Petits et grands, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Pour Chloé Burton, responsable jeunesse de Latitude Jeune, ce mélange des publics est essentiel.
Plusieurs fois par an, on essaie de faire des activités ensemble et ça permet vraiment un mélange de publics et une vraie inclusivité, en fait, parce que les gens viennent parce qu'ils connaissent une des activités et découvrent les autres, à l'occasion de journées portes ouvertes comme celle-ci. Et donc, pendant toute la journée ici, il y a eu une vraie inclusion, un vrai mélange de gens avec ou sans handicap, de petits à âgés, de joueurs adultes qui ont l'habitude de rester entre eux, des groupes d'institutions, à des familles, à des gens qui habitent le quartier, qui n'avaient jamais osé passer la porte et qui sont venus voir. Et c'est vraiment ça qui nous motive, ce mélange de public et cette inclusivité.
Pour clôturer la journée, 14 équipes se sont affrontées lors d'un grand blind test. Le reste de l'année, Latitude Jeune propose de nombreuses activités, une école de devoirs, des accueils vacances, des séjours résidentiels ou encore des formations à l'animation. La ludothèque, elle, reste accessible toute l'année.
Un point sur l'actualité internationale désormais, de nouvelles frappes ont eu lieu sur la bande de Gaza ce jeudi matin. Au moins 10 civils ont perdu la vie. Selon la défense civile, le nombre de morts depuis la reprise des frappes dans la nuit de lundi à mardi est de 470. Israël a affirmé reprendre ses frappes afin de libérer les otages. Pour rappel, un accord de trêve avait été signé le 19 janvier. Le Hamas a accusé Israël de torpiller cet accord. L'Europe s'est donné un objectif, pouvoir assurer sa défense avant 2030. Les 27 membres de l'UE se réunissent ce jeudi pour discuter d'un plan de réarmement avec un triple objectif. Continuer le soutien à l'Ukraine, assurer sa propre sécurité et doper la compétitivité européenne. Cette volonté intervient dans un contexte de tension avec les États-Unis. En football, premier test pour les Diables Rouges sous leur nouveau sélectionneur Rudy Garcia, Quentin.
Ils affrontent ce soir l'Ukraine en match de barrage de la Nations League. Attention tout de même à rester vigilant, puisque, on le rappelle, la Belgique s'était cassé les dents sur cette solide équipe ukrainienne lors du dernier Euro. Le match se jouera à Murcie en raison de la guerre qui touche actuellement l'Ukraine. Coup d'envoi à 20h45.
Et est-ce qu'on sait à quoi s'attendre comme composition, Quentin ?
Alors c'est toujours un petit peu flou. En tout cas, au niveau du capitaine, Rudy Garcia a tranché. Ce sera Lukaku ce jeudi et Kevin De Bruyne dimanche. Dans les cages, Thibaut Courtois fait son grand retour. En défense, le sélectionneur devrait opter pour un axe central composé de Faas et de Debast. De Kuyper occupera le poste de back gauche, tandis que Meunier jouera à droite. Au milieu de terrain, Tielemans semble indéboulonnable. Pour le reste, De Bruyne pas en forme. Raskin et Van Aken se disputeront les deux places restantes. Sur le front de l'attaque, Luke Bakio devrait jouer à droite et Lukaku en pointe. En ce qui concerne le côté gauche, Doku et Trossard devraient se disputer la place.
Et on reste en football, on l'a appris ce matin, David Hubert est licencié de son poste d'entraîneur du Royal Sporting Club d'Anderlecht.
Et oui, et c'est un peu à la surprise générale que l'information est tombée ce matin. David Hubert, qui restait sur une victoire 3-0, acquise contre le Cercle de Bruges le week-end passé, avait remplacé Brian Riemer au mois de septembre. Mais on n'a pas traîné en coulisses à Anderlecht, puisque le nouveau coach est déjà connu. C'est Besni Kasi qui fait son grand retour. Il avait été champion avec le Sporting d'Anderlecht en 2014.
Et d'autres sportifs belges seront en action aujourd'hui.
Thierry Neuville va reprendre la route au Safari Rally au Kenya. Ce rallye très atypique est truffé de pièges. Il devra donc se montrer très concentré s'il veut revendiquer la victoire.
Les Ardentes ont annoncé leur tête d'affiche hier et ce serait le DJ français David Guetta. Une tête d'affiche qui réjouit les organisateurs mais qui laisse perplexe certains puisqu'un DJ sera en tête d'affiche d'un festival de musique urbaine. Jean-Yves Remond, programmateur du festival, a expliqué cette décision à nos confrères du soir. Je le cite, les Ardentes restent un festival de musique urbaine mais on est ouvert aux autres tendances qui animent notre public, notamment latine, afro ou électro. L'année passée, on avait cloué le festival avec deux DJ et ça avait cartonné. Suite de notre série consacrée à l'extrême droite et ses méthodes, Nathan, on va aujourd'hui s'intéresser à une technique utilisée par l'extrême droite, à savoir la désinformation. Pour aborder ce sujet, on est obligé d'évoquer Donald Trump.
Oui, le président américain est un adepte des fake news, les fausses informations en français. Il en propage abondamment. Durant son premier mandat, qui a commencé en janvier 2017 et qui s'est achevé en janvier 2021, le président a fait 30 573 déclarations fausses ou trompeuses. Ce chiffre, il est fourni par le service de fact-checking du Washington Post. Lors de la dernière campagne présidentielle, Donald Trump s'est une nouvelle fois illustré en propageant des fausses informations. Comme exemple marquant, on peut citer l'affirmation tenue par le président en plein débat présidentiel, affirmation selon laquelle des migrants mangeraient des chats et des chiens à Springfield, ville du nord des États-Unis.
Et cette technique de diffusion de fausses informations, est-ce qu'elle est propre à Donald Trump ?
Eh bien, le président américain est un des exemples les plus flagrants de diffuseurs de fausses informations. Cependant, cette méthode est une caractéristique plus globale de l'extrême droite. Nicolas Destré, spécialiste de la désinformation et chercheur en relations internationales à l'ULIEJE.
L'extrême droite, de manière internationale, partage des techniques, partage des moyens d'action, et un des moyens d'action privilégiés est la désinformation. On peut citer, si on veut, un exemple frappant qu'il y a eu ces dernières années en termes de désinformation, c'était le Washington Post qui avait révélé que Marine Le Pen recevait des instructions directement du Kremlin sur le narratif à donner sur la guerre en Ukraine. Donc là, on voit clairement qu'il y a une convergence des autocraties, si on veut le dire de manière un peu rapide, qui ont pour outil majeur l'utilisation de la désinformation pour déstabiliser des populations et petit à petit les amener vers des affects autoritaires, racistes, etc.
Et alors ce phénomène, il n'arrive pas qu'à l'étranger, on retrouve des exemples de désinformation en Belgique, au nord du pays. En 2019, plusieurs cadres du Vlaams Belang avaient partagé sur Twitter une vidéo d'un blocage de route organisé par des migrants à Calais. Il ne s'agissait en réalité pas d'une vidéo de migrants, mais bien de gilets jaunes près de Visée. Philippe de Winter, actuel secrétaire du Parlement flamand, n'avait pas retiré la vidéo de ses réseaux sociaux. Il avait même déclaré Je cite, « Personne ne peut prétendre que ces scènes, que des scènes similaires, presque identiques, ne se produisent pas chaque semaine à Calais. »
Merci Nathan, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain même heure sur 48FM. Une très bonne journée à tous.